cherche les problèmes.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des deux centraux dominants, celle qui s'exerce jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles. Et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales, le mécanisme impitoyable qui contribue à l'économie.
Échappé au signalement, sous la pushka de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants, parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort, le vrai bug, le faux raccord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps, la doublure, le doublon, canoncier dans le double fond, le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image, le plus parfait des parfaits, camouflage, le trompe-l'œil est...
Salut, salut à tous, vous êtes toujours branchés sur le 102.2 de Radio Canu et c'est les émissions en direct qui reprennent la parole après la bande continue donc, et c'est l'émission Angle Mort que vous connaissez peut-être maintenant si vous êtes habitué de ce créneau. Donc tous les dimanches de 21h à 22h, émission de critique sociale, etc. etc. Aujourd'hui, on est trois dans ce studio, on aurait pu être quatre. Mais la quatrième personne s'est défilée, on se permet de le souligner parce qu'elle écoute. Voilà, donc on est très déçus. Mais bref, passons direct à autre chose. Donc qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va avoir plusieurs petites choses. On va parler avec Natacha d'un article
du Progrès.
Voilà. Relatif à la question des Roms à Lyon. On va parler aussi je vais présenter un livre qui est paru il y a peu, qui s'appelle Zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes, texte et images, qui est paru chez l'Insomniac. Donc voilà, je vais présenter ça, puis ça sera l'occasion de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes depuis quelques années. Et alors là, ça sera en fonction du temps qui nous restera. On devra avoir l'introduction aussi de la chronique auto que tout le monde attend impatiemment.
On trépigne,
mais ce sera très court.
Voilà.
Donc ça sera à la fin, ce sera juste pour donner envie.
Exactement. Et puis aussi à nouveau, si on a le temps, et j'espère qu'on aura, Natacha devra aussi nous présenter rapidement un livre qu'elle a lu cet été.
Ouais, on verra si...
Voilà. Très bien, donc Angle Mort, à notre habitude, on lance un premier titre. De Jello Biafra, issu de l'album The Audacity of Hype. Donc c'est Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine. Et alors si c'est tout bien calé, ça devrait être la chanson Clean as a Thistle. Voilà, pardon pour l'accent anglais. C'est bon, ça va tout le monde ?
Ça va.
Allez, angle mort, Radio Canu.
Des colères. champs,
au cœur des poudrières,
au départ des coursiers.
Je vais pas du canon et particulièrement l'émission Angle Mort. Donc là, vous venez d'écouter Jello Biafra et And the Guantanamo School of Medicine. Et donc maintenant, c'est Natacha qui va nous parler du progrès et puis d'un article qu'ils ont écrit sur les robes.
Oui, c'est donc ça. Alors, en fait, un petit coup de sang là de rentrée pour un article donc paru le 6 septembre 2013 dans Le Progrès, donc un journal de la presse quotidienne régionale du coin. L'idée, c'est de partager un petit coup de gueule et puis une envie intense et tenace de vomir à la lecture de cet article. Cet article pour lequel Le Progrès titrait en première page et en gras « Vaux-en-Velin, les rats de l'ancien camp de Rome prolifèrent ». C'est d'ailleurs le titre principal de cette édition du 6 septembre, ce qu'on appelle en gros le gros titre. Alors, quelques éléments de contexte pour resituer un petit peu le contexte dans lequel ça s'inscrit. Le 23 août dernier, 300 personnes sont expulsées d'un terrain occupé sur la commune de Vaux-en-Velin. Les baraques et cabanes sont détruites le lendemain. Et puis après, sur les 300 personnes jetées à la rue, une centaine, c'est-à-dire une grosse vingtaine de familles, seront hébergées dans des hôtels. Mais on peut se dire, tiens, pour une fois, la préfecture s'inquiète de ne pas laisser une partie des personnes jetées à la rue sans solution de alternative. Mais en fait, comme le souligne Philippe Alain, alors Philippe Alain, c'est quelqu'un qui écrit des articles nombreux sur la situation faite aux Roms dans l'agglomération lyonnaise. Il tient un blog sur Mediapart. Et il explique que dans ce cas-là, en fait, c'était une. Que les familles hébergées dans les hôtels ont fini par. Qui se sont vues proposer un toit, ont fini par en fait être. Recevoir quelques jours plus tard un OQTF, un ordre de quitter le territoire français. Donc il s'agissait de proposer un toit pour mieux expulser ensuite. Mais enfin, passons. Donc le 23 août, expulsion d'un terrain sur la commune de Vaux. Et donc le 6 septembre, Le Progrès qui titre Vaux-en-Velin, les rats de l'ancien camp de Rome prolifèrent. En page 10 du journal, on pouvait ainsi trouver l'article auquel faisait référence le titre de la première page du journal, un article signé Laurence Loison. Alors, je vais essayer de vous expliquer le dispositif de cet article, qui est à lui seul assez intéressant, et la mise en page, mais c'est pas tout à fait évident, mais bon, je vais m'y essayer. D'abord, on va trouver donc en page 10 un autre titre qui se trouve être le suivant. Après le départ des Roms, les rats envahissent le quartier. On a une photo de deux dames et d'un enfant qui montrent un rat mort au sol avec le sous-titre suivant. Halima et Warda montrent un cadavre de rat. Au petit matin, on ramasse plusieurs dizaines de rats crevés sur la chaussée. On a l'article en lui-même. Et puis on a un petit encart à droite de l'article de quelques lignes qui lui est intitulé « Les Roms essayent de revenir ». Alors, là, déjà, bon, on a un dispositif qui laisse un peu pantois. Plus globalement, tout l'article, toute la page est à gerber. Hein. On a un dispositif assez insidieux qui, volontairement ou non, par maladresse, par bêtise ou plus directement par racisme, tend implicitement à associer Rome et rat et à rendre responsable les premiers de la présence des scons. Alors, je vais essayer d'illustrer et de justifier ce que j'avance. D'abord, dans l'article, on va trouver une similitude des terminologies utilisées pour évoquer à la fois les rats et à la fois les personnes qui habitaient le bidonville. D'abord, des terminologies un peu identiques pour évoquer le nombre, à la fois le nombre de rats et puis le nombre de personnes qui habitaient sur place. Donc, l'article dit que les rats envahissent, je cite, que les rats, je cite toujours, se comptent par milliers, qu'ils sortent la nuit par centaines. Tandis que les Roms, dans la phrase qui suit immédiatement, sont également évoqués dans des termes analogues. Ils étaient aussi, je cite, des centaines à squatter le terrain. Les terminologies analogues vont se retrouver aussi pour dire le problème que les uns et les autres représentent pour les habitants, d'après la journaliste qui écrit l'article. Les rats sont, entre guillemets, un fléau que les habitants doivent, entre guillemets, toujours affronter. Tandis que les Roms ont fait, je cite, « subir aux habitants du quartier de Tazavo des nuisances insupportables ». L'article débute en effet de la manière suivante, et là je vais le citer très exactement, les termes utilisés par l'auteur. Ils sortent la nuit, par centaines. Au petit matin, on ramasse des dizaines de cadavres de rats sur la chaussée, écrasés par les voitures. Après avoir subi pendant un an les nuisances insupportables d'un bidonville occupé par des centaines de Roms, les habitants du quartier de Taz de Vaux-en-Velin doivent maintenant affronter le fléau des rats.
C'est
voilà, hein. Donc ça laisse sans voix. Plus loin dans l'article, on va trouver une autre formule utilisée indifféremment pour les Roms et les rats. Il s'agit en effet, pour les uns comme pour les autres, de les empêcher d'eux. Alors pour les rats de s'installer et puis pour les Roms de revenir. Donc je vais citer à nouveau très dans le texte l'article. Dans les maisons de la rue Nelly, les habitants ont placé des cartons en bas des portes pour empêcher les rats d'entrer. Certains hésitent à prendre leur voiture de peur de trouver un rat dans le moteur. Les vigiles qui surveillent le terrain, pour empêcher les Roms de revenir, ont dû apprendre à cohabiter avec ces vilaines bestioles. On finit par plus savoir qui sont les vilaines bestioles. Voilà, donc enfin, le malaise et l'écœurement s'approfondit encore avec l'encart à côté de l'article principal que j'évoquais tout à l'heure et qui est intitulé « Les Roms essayent de revenir ». Comme je le disais, donc un encart qui dit « Des vigiles surveillent le grand terrain en face du tram T3 qui abritait le bidonville pour empêcher les Roms de s'y réinstaller. Ils essayent de revenir. Il y a déjà eu de nombreuses tentatives. La dernière fois, ils étaient deux avec une pelle. Je crois qu'ils essayaient de reboucher les trous avant de s'installer. Nous les avons fait partir et ils nous ont même laissé la pelle », affirme Antoine, l'un des gardiens, en brandissant l'outil. Voilà. On trouve aussi dans cet article activé un préjugé assez tenace selon lesquels les Roms seraient sales, puisque la responsabilité de la présence des rats leur est plus ou moins attribuée, hein, directement. Alors je dis plus ou moins directement parce que c'est jamais écrit de manière
directe ou explicite.
Voilà, ouais. mais le dispositif et la construction de l'article le suggèrent plus que fortement. L'article va expliquer en effet que si les rats prolifèrent dans l'ancien bidonville, c'est notamment la faute des montagnes de détritus qui jonchaient le camp. Et des détritus qui sont qualifiés de détritus de Roms. Alors on imagine pourtant sans peine que le terrain squatté ne bénéficiait pas du ramassage des ordures. Mais bon, peu importe, cela n'intéresse pas l'auteur de l'article. Et tant pis d'ailleurs s'ils sont même plus là, puisqu'ils ont été expulsés, ça fait déjà 15 jours. Tous ces rats, en somme, c'est à cause des familles Roms. À la fin de l'article, pourtant, il y a d'autres explications qui sont avancées. Les travaux d'aménagement du carré de soie avec des creusements dans le sol expliqueraient en partie la présence de nombreux rats aussi dans le quartier. Bon, et à la limite, j'ai envie de dire, peu importe d'ailleurs. Donc on trouve, à côté des formules et des termes que j'évoquais qui associent Roms et nuisibles, des préjugés racistes activés que je viens d'évoquer, on trouve également de la part de la journaliste plus globalement une indifférence totale aux conditions de vie de la population Rome de Lyon, aux discriminations qu'elle subit, à la situation de non-droit qui leur est faite en France. Pas un mot sur la longue liste de campements provisoires détruits et de squats expulsés ces dernières années et ces derniers mois. Pas un mot sur le sort de familles jetées à la rue, laissées très souvent sans solution alternative, condamnant les familles à se déplacer de campements provisoires, de bidonville en squats dégradés et dangereux. Rien que dalle. Rien non plus sur les obstacles particuliers que subissent ces personnes pour accéder à l'emploi, puisque la libre circulation des travailleurs est toujours refusée aux Roumains et Bulgares, et que la plupart des personnes Roms sont des citoyens européens d'origine roumaine ou bulgare, ou hongroise. Rien non plus sur les difficultés d'accès à la scolarité des enfants, etc. Mais bon, on l'a bien compris, c'était pas le sujet de l'article. Donc un article qui laisse un profond sentiment de malaise et de colère, qui montre bien comment progressivement les personnes roms qui vivent en France tendent à figurer comme des sous-humains, à la fois responsables de nuisances en tout genre, mais également elles-mêmes vermines dont il faut se débarrasser. S'affiche la rage, la honte et la trouille. D'ailleurs, j'ai vu, mais juste avant de venir, avant même de que la Ligue des droits de l'homme du Rhône avait écrit à la journaliste, enfin au Progrès, pour dénoncer cet article qui avait profondément choqué aussi les représentants de la Ligue des droits de l'homme. Et qui rappelait comment les deux informations mises côte à côte, RA et ROM, dans un même titre, revient à rendre responsables les ROM des pires calamités qui peuvent s'abattre sur les communautés humaines. Je cite du coup un extrait de la lettre de la Fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme au journal Le Progrès. Voilà.
Ouais, et du coup, j'ai regardé un petit peu, alors je sais pas si on peut. Le nom de cette journaliste, Laurence Loison, je me disais, mais qui. Parce que vraiment, en lisant aussi l'article, je m'étais dit, c'est pas possible, c'est une personne infiltrée d'un courant de droite extrême ou quelque chose comme ça. Et en fait, bon, je sais pas trop comment ça marche, mais je suis tombé sur un sorte de site, enfin, ça doit être Twitter ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais il y avait une liste de trucs donc retweetés. Par cette Laurence Loison, et dans ce qui était retweeté, ça laissait entendre que par ailleurs elle était pas particulièrement, enfin c'était peut-être plutôt même une quelqu'un de gauche, enfin parce qu'elle retweet des trucs qui viennent de rébellion, elle retweet, et du coup moi ce qui, enfin si alors je sais pas trop si on peut dire ça, mais s'il s'avérait qu'effectivement cette personne est plus ou moins de bonne sensibilité de gauche, je trouve ça d'autant plus inquiétant et significatif de comment c'est un racisme qui s'est vraiment banalisé sur les Roms. Ça va jusqu'à toute la population. On peut être de gauche et dire bon bah ouais quand même comment on va faire, et puis ils sont sales, alors que oui bah ils sont sales n'importe quel Français, si on lui ramasse pas ses ordures, je suis pas sûr qu'il va faire lui-même le voilà, donc c'est bon, bref. Et donc ce truc là, cette journaliste, on aimerait bien savoir qui c'est, et et je trouve ça très très inquiétant effectivement que des personnes qui a priori pourraient être de gauche en viennent à présenter une population comme sous-humaine et du coup à légitimer toute une politique visant à bon bah de toute façon s'ils sont pas humains on peut vraiment leur faire n'importe quoi, ça nous concerne pas quoi. Voilà. Pour abonder dans ton coup de gueule.
Ouais, je sais pas, peut-être que c'est. Je sais pas, peut-être que c'est une démarche de provocation. Elle a voulu susciter des réactions. Non, je crois pas. Hein, mais bon, malheureusement, je crois pas. Voilà. Simplement remercier du coup ma collègue Alban qui a l'œil aiguerri et qui avait vu le progrès du 6 septembre qui traînait sur un bureau au boulot et qui s'était arrêté dessus assez halluciné. Voilà.
Alors sans transition, on va passer à un peu de musique. Et vraiment sans transition, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Vous allez écouter Salmo, qui se définit comme une musique narrative sur le thème de la truite.
Oula.
Alors le laboratoire Salmo l'a élaboré sur des thèmes, des interprétations de la vie de cet animal constitué, tout comme toi, d'eau à 66%. Ce composé de la rivière, cette concentration de particules de l'ordre du 10-20 microns, idéalement assemblée et animée selon des lois sans doute naturelles. Alors Salmo poursuit ses expériences dans des milieux primitifs et hypnotiques, comme vous allez le voir, et comme la truite qui vous glisse des mains, personne ne peut dire où elle ira exactement.
Où est-ce que tu as trouvé ça, Fabien?
Je suis allé me balader dans la vallée d'Azergue,
et
je suis tombé sur le CD... Et je me suis dit qu'il fallait absolument le diffuser sur Radio Canu. Alors là, vous allez écouter Frais. Alors, c'est une obade en quatre thèmes.
C'est pas possible.
Alors, on va pas tous les écouter parce que le morceau fait plus de 8 minutes. On va écouter les premiers. Alors, les premiers, vous allez voir, donc il y en a quatre hein, de thèmes. C'est préparation des nids circulaires, parade, love à l'africaine. Le troisième, c'est fécondation, et le quatrième, alerte. Et donc, vous essaierez de retrouver justement dans les différents passages de cette musique ces différents comportements de la truite. Voilà.
Dont on est spécialiste ici.
Exactement. Et donc, on y va tout de suite.
Allez.
C'est parti. We'll be right back. retour dans l'émission Angle Mort. Et maintenant, c'est au tour d'Eric.
C'est tout à fait ça. C'est
et
mon
de quoi
nom.
Tu vas nous parler maintenant?
Eh bien, je vais parler d'un livre qui est paru sur la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est le titre, hein, Zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes, texte et images. C'est paru chez un petit éditeur qui s'appelle L'Insomniac. J'ai pas la date exacte, mais ça doit être vers la mi-2013. Je crois que c'était imprimé en avril 2013. Voilà, donc c'est un livre assez récent. Et qui retrace donc la lutte qui a eu lieu, qui se poursuit à Notre-Dame-des-Landes, dans la banlieue de Nantes. Donc c'est un ouvrage collectif élaboré en coordination avec des habitants de la ZAD, zone à défendre, donc en résistance. Ouvrage qui ne prétend pas dresser un tableau des diverses sensibilités qui se sont retrouvées dans le mouvement donc contre ce projet d'aéroport aux alentours de Nantes, mais qui vise plutôt, je cite l'avertissement en ouverture du livre, à donner un aperçu de la radicalité qui s'est affirmée et affinée au cours de cette lutte et qui a permis à celle-ci de dépasser une revendication locale en la dotant d'une portée plus universelle. Donc c'est un livre qui est principalement réalisé, enfin essentiellement à partir de tracts, de communiqués, de commentaires, de photos et autres images fournies par des occupants et leurs amis, qui commence par un avant-propos de l'éditeur Insomniac, qui se poursuit par une chronologie de la lutte contre ce projet d'aéroport, et ensuite par plusieurs chapitres qui permettent d'entrer dans plus en détail dans différents moments de cette lutte. Et le livre se termine par un chapitre conclusif intitulé « Une faille en devenir » dans lequel on trouve notamment un dialogue à propos de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est un dialogue qui met en scène un personnage qui est appelé Depret, donc un occupant de la ZAD en gros, et un autre intitulé De loin, donc on imagine être quelqu'un qui est plus ou moins sympathisant potentiel, mais qui adresse une série de critiques en fait. Et voilà. Et donc il y a un dialogue entre De près et de loin, ce qui permet à la fois de donner un argumentaire qui est loin d'être con pour le coup, et de rappeler que ces occupants de la ZAD sont les premiers à avoir pensé à bon nombre de critiques qu'on leur fait souvent. Donc sur la tactique, l'objectif, les perspectives politiques, etc. Donc c'est un texte assez intéressant. Voilà, ça c'est pour la présentation un peu formelle du contenu du livre. J'aimerais du coup me saisir aussi de celui-ci pour faire une présentation rapide du mouvement en question. Alors je précise que j'ai pas fini la lecture du livre et que j'étais jusqu'il y a peu resté assez ignorant du mouvement. Donc je prétends pas ici faire œuvre de spécialiste, j'ai simplement donné une présentation rapide de ce qui s'est passé pour qui, comme moi, serait passé un peu à côté quoi.
Tu déconnes Eric, tu l'as pas lu et puis t'en parles.
Non mais je l'ai trouvé bien, je voulais en parler et du coup j'ai dû sauter quelques passages.
Non, je plaisante.
Voilà, mais j'en ai lu une grosse partie quand même. On me laisse rien, hein. Enfin, dès qu'il y a moyen de tomber
exactement,
dessus.
Exactement,
on laisse rien passer quoi. Donc la ZAD, c'est quoi? Donc ZAD, c'est à la base le nom donné au départ par les concepteurs du projet d'aéroport à la zone sur laquelle l'aéroport devait être construit. Donc ça voulait dire au départ zone d'aménagement différée. Et le sigle a ensuite été détourné par les opposants au projet d'aéroport en zone à défendre, entre autres multiples déclinaisons possibles de ZAD. Et de quelle zone on parle en l'occurrence? C'est un coin de bocage et de ferme à proximité de Nantes. Et l'histoire commence dans les années 1960 lorsqu'est échafaudé donc un projet d'aéroport pour l'agglomération nantaise par quelques représentants locaux qui voit principalement un moyen, pense-t-ils, de booster, on va dire, économiquement leur région. Et l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres pour la construction, c'est Vinci. Et pour elle, on imagine qu'il s'agissait, à l'accoutumée pour ce genre d'entreprise, de se faire du fric aux dépens de fonds publics. Et donc le mouvement d'opposition est apparu assez tôt, dès le début des années 70, principalement à l'initiative d'agriculteurs qui étaient installés sur la zone, qui devait donc être détruite. Et on peut distinguer ensuite trois cycles de lutte. C'est-à-dire que dans les années 70, il s'agit essentiellement de paysans qui vont se réunir en comité de défense, etc. Puis au début des années 2000, c'est assez long entre parce que le projet a été mis en sommeil à plusieurs reprises, apparaît un mouvement que les éditeurs du livre et puis que lui-même s'était autodéfini comme citoyen et qui procédait par contre-expertise, recours juridique, lobbying auprès des élus, actions symboliques visant l'opinion publique, etc. Puis sont arrivés sur le site des premiers groupes de squatteurs autour de 2007-2008 qui ont commencé donc à occuper la zone et à en faire un espace d'échange, de vie alternative, de rencontres donc avec les habitants, les paysans aussi, et donc d'échange au point que la frontière entre habitants, paysans et squatteurs est devenue progressivement poreuse. Et en parallèle à cette occupation illégale des terres et des maisons comme moyen d'action contre le projet d'aéroport, ont eu lieu de nombreuses actions. Entre 2009 et 2011 notamment, il y a eu progressivement de plus en plus d'actions qui ont entraîné une répression forte des activistes. Et point important, c'est que donc avec le début de l'occupation de la zone, le nom à l'aéroport est devenu plus largement un nom au monde capitaliste, on va dire. C'est-à-dire que la ZAD n'est plus simplement une lutte, on va dire, écologiste contre la destruction d'un bocage, etc. Ou d'agriculteurs, ce qui est aussi important, quoi, contre la destruction de leur métier, de leur outil de travail. Mais c'est devenu aussi la défense de formes d'expérimentation sociale, de voies de sortie collective hors du système capitaliste mortifère. Le temps fort du mouvement commence un peu après, en octobre 2012, c'est-à-dire lorsque les pouvoirs publics, c'est-à-dire à cette époque, du coup, comme aujourd'hui, hein, c'est les socialistes et dont les écologistes sont alliés, ils ont décidé l'expulsion de la zone pour commencer donc les travaux, opération qui au final, on peut le noter tout de suite, aura coûté entre 500 000 et 1 million d'euros aux contribuables, et ils ont réussi à faire passer ça sur le dos du coup des gens qui résistaient, quoi. Bon, alors comme des cons, les pouvoirs publics ont nommé leur opération d'expulsion opération César. Donc je sais pas, c'est totalement con. Alors, on est proche de la Bretagne. On lance une opération consistant en gros à lancer des troupes de Playmobil en surnombre contre un espace occupé par une poignée de paysans, d'habitants et d'activistes qui se conçoivent en résistants d'un empire capitaliste, et on va appeler ça opération César. Donc forcément, sans surprise, en face, la résistance s'est autodénommée opération Bélix ou opération Astérix, selon. Et là, bon, un texte du livre raconte aussi à ce propos un face-à-face entre un camarade qui s'était déguisé en Gaulois, c'est dans un champ que ça se passe, et en face, dans l'autre côté du champ, il y a des gendarmes ou policiers, je sais plus, qui étaient stationnés, et donc le camarade criant « Allez dire à Rome que son empire s'arrête ici, je n'ai pas envie de vous tuer, mais j'ai besoin de vos crânes pour boire de la bière, j'ai embrassé ma femme ce matin et mangé de la chair humaine, je suis fort prêt à mourir ». Au-delà de cette limite, et là il plante son épée, je ne garantis plus votre sécurité. Donc bon, pour ce genre de truc un peu marrant, quoi, le mec qui est habillé en gaulois et qui... Voilà, donc ça c'est un peu anecdotique, mais du coup je me demande aussi dans quelle mesure du coup, la référence qui s'impose à la BD d'Astérix provoquée ici par les pouvoirs publics eux-mêmes n'a pas été favorable à l'élan de solidarité qui a appuyé le mouvement de résistance. Quoi qu'il en soit, donc il y a eu au moment, donc les flics sont arrivés un peu par surprise, mais il y a eu une fronde des occupants contre cette opération d'expulsion, fronde qui sur le moment n'a pas réussi vraiment à empêcher la destruction des lieux de vie qui existaient, qui avaient été construits ou qui existaient déjà avant parce qu'il y avait déjà des maisons, mais qui au fur et à mesure des journées, des semaines, a réussi à enrayer l'opération d'expulsion par la construction de barricades, par la défense de ces barricades, par des actions de guérilla dans le bocage, donc avec des projectiles improvisés, donc aussi dans le livre du coup on a une explication comment faire un lance-pierre, voilà, par l'organisation d'embuscades aussi sur le passage des convois, et voilà, donc guérilla dans le bocage qui parvient petit à petit à enliser en fait l'expulsion. Et donc cette capacité à enrayer une action de police a priori inarrêtable, parce qu'il y a vraiment un rapport de force défavorable, et qui, opération de police, n'hésitez pas à employer la force, parce qu'il y a eu nombreux blessés par tir de flashball notamment. Donc c'est une capacité qui est déjà importante et qui mérite d'être questionnée pour l'avenir de nos luttes. Et à ce propos, je cite l'éditeur du livre qui se questionne justement sur cette capacité. Il n'est pas aisé a posteriori de décrypter l'alchimie du moment. Les occupants de la ZAD et leurs amis pouvaient compter sur une connaissance précise d'un bocage foulé et exploré quotidiennement, sur une habitude certaine des jouets au chat et à la souris avec les gendarmes, agents et machines de Vinci, parce qu'il y a aussi des vigiles, etc. Leur complicité s'était soudée aussi dans une flopée d'actions collectives, et les structures mises en place pour la lutte et en vue des expulsions ont rapidement révélé leur efficacité. Équipe médicale, automédia, juridique, radio pirate, guette et talkies ou walkies, maison dans les arbres et chemin aérien. Un texte publié dans le livre souligne aussi l'importance de l'approvisionnement. Là, je cite ce texte. L'appel à des besoins matériels, outils, nourriture, chaussettes et fringues, s'est transformé en un véritable ravitaillement pour soutenir la lutte au quotidien. Cette solidarité est mise en commun de tous les besoins matériels sont capitales pour réussir à focaliser l'énergie sur la résistance aux expulsions et les attaques aux porteurs de projets. Et le même texte souligne aussi le rôle joué du coup par la radio pirate du coin qui s'appelle Radio Klaxon et qui informait en fait sur les checkpoints de la police pour permettre aux personnes qui arrivaient de l'extérieur d'approvisionner les rebelles, on va dire. Et donc la résistance a duré plusieurs semaines et a été suivie le 17 novembre, donc ça a commencé en octobre, et le 17 novembre, il y a eu une manifestation de réoccupation qui a été une véritable réussite puisqu'elle a permis de reconstruire en peu de temps des lieux de vie qui avaient été détruits. Donc là, je cite à nouveau le livre, l'éditeur, « Cette manifestation était très importante pour la ZAD. L'avenir dira peut-être même jusqu'à dire qu'elle a fait partie des moments décisifs, pour deux raisons principales. » La première est la réussite de ce rassemblement, autant par le nombre que par le déroulement. Construction collective, organisation, soutien matériel, police impuissante. Tant de monde qui se déplace de partout sur la zone signifie que les opposants ne sont pas divisés, contrairement à ce que souhaiteraient nos ennemis. Que le soutien aux squatteurs est fort et inconditionnel. Que les efforts faits en amont pour que la lutte prenne de l'ampleur ont porté leurs fruits. C'est dans les moments difficiles que l'on perçoit le mieux les forces en place. Que la bataille a dépassé la simple idée d'un nouvel aéroport, mais que c'est plutôt le gouffre qui sépare les dirigeants du peuple qui fait réagir. Et puis, le réconfort est énorme. La police ne se montre pas et la certitude que les autorités sont très emmerdées est jouissive. Donc le deuxième point fort est la phase de réoccupation qui commence. Ce jour même, avec un élan de soutien impressionnant, des cabanes en kit arrivent de plusieurs endroits. Les chaînes humaines pour transporter le matériel sont grandioses. Les nouvelles cabanes du nouveau lieu, la Châtaigne, avancent vite. C'est le cas aussi les jours suivants, puisque beaucoup de personnes décideront de rester quelques jours, quelques mois. C'est à partir de ce moment que la démographie sur la ZAD double ou triple. Les chantiers fleurissent partout car l'hiver se fait sentir et les besoins que crée la vie collective sur un terrain occupé militairement sont nombreux. Voilà, alors je pense qu'il ne faut pas pavoiser non plus, rien n'est gagné. Puis l'activité policière a eu des hauts et des bas, mais elle n'a jamais cessé. Donc saccage, rafle du matos, interpellation ciblée, provocation, enfin tout ce que la flicaille sait faire... en termes d'humiliation notamment, parce que aussi il raconte comment tel flic va pisser sur les lits quand il. Voilà, enfin bon, ça ils savent bien faire. Mais bon, l'occupation tient toujours et j'invite à aller sur le site internet zad.nadir.org pour voilà, prendre acte de cette lutte qui continue. Alors le livre il rend compte aussi du désarroi policier à partir de alors c'est un article en fait que j'ai du 27 novembre 2012 donc on est deux mois après le lancement de l'opération et j'ai beaucoup aimé c'est un article du Télégramme, je vais le lire. Robocop surmené. Le syndicat FO des CRS déplore l'absence de visibilité d'anticipation. Citation, nous sommes habitués à intervenir en urgence, mais ici on n'est plus dans l'urgence. Cela fait déjà un mois et demi que ça dure et on n'en voit pas la fin. Et nous avons d'autres missions, explique le policier syndicaliste, évoquant notamment la mise en place des zones de sécurité prioritaires. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres gros événements de ce type en France, ou des manifestations dans tout le pays, prévient notre policier. Alors, voilà. Il n'est pas possible de tenir dans la durée et de fixer autant d'effectifs sur un seul site. Et c'est bien là le gros problème des forces de l'ordre. Nouvelle citation. Déloger, on peut faire, mais tenir, c'est impossible. On ne peut pas empêcher les gens de revenir le lendemain ou la nuit, reconnaît un spécialiste du maintien de l'ordre. Donc voilà, donc j'en termine. J'étais peut-être un petit peu long, mais pour en gros, j'aimerais souligner, modestement, ça se discute, hein, mais ce qui me semble être d'un côté le point fort et de l'autre côté le point faible du mouvement. Le point fort, bah, cet article me semble le décrire, c'est que la ZAD a ouvert, il me semble, une faille, et d'ailleurs, c'est le propos du livre en général. Faille dont la condition de possibilité se situe, il me semble, dans l'accumulation depuis plusieurs années dans différents milieux, notamment dans le milieu des squats libertaires, donc l'accumulation d'un savoir-faire dans l'auto-organisation, dans l'autoconstruction, dans des tactiques de guérilla. C'est une faille aussi, car symboliquement, là, ça montre qu'ils ont beau détruire, ils ont beau expulser, du moment qu'on est nombreux, on a les moyens de reconstruire sans cesse, donc on est... Ils sont un peu impuissants face à ça. On a donc trouvé un moyen de démoraliser et d'enrayer les actions policières. C'est plutôt positif. La lutte dit bien aussi la diffusion large des discours sur la réappropriation de nos vies, sur la construction de zones alternatives pour construire une autonomie à l'égard du système marchand, pour sortir du monde du travail sous sa forme classique. Et là, je renvoie du coup aux nombreux textes qui ont été publiés dans ce livre, dont je rappelle le titre « Zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes, textes et images ». Et donc, c'est un livre qui témoigne d'une réflexion, enfin d'un armement théorique, je trouve, des personnes présentes, à partir de courants insurrectionnalistes, post-situationnistes, autogestionnaires, et c'est quelque chose de positif à mon sens, parce que contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire de l'extérieur, on a vraiment un mouvement qui ne se définit pas par un simple retrait du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de, on construit des bases pour un assaut collectif contre le système capitaliste, voilà. Et donc c'est vraiment positif, ça il me semble. Par contre, le point qui me semble plus négatif, toujours au niveau un peu théorique, j'ai envie de dire, c'est et j'ai envie de peser mes mots parce que je ne veux pas contribuer à de fausses oppositions, mais autant que j'ai pu en juger par les textes publiés dans le livre, le langage des classes sociales, le langage de la domination d'une classe sur une autre, des inégalités, est quasi absent. Et je pense que c'est dommage parce que ça contribue à maintenir cette idée qu'il y a des luttes différentes, par exemple des luttes d'ouvriers qui vont défendre leur outil de travail et des luttes de squatteurs irréductiblement opposés au travail et qui vont être abusivement déguisés en bobos et que ces luttes seraient totalement différentes. Et je pense que parler ce langage des classes sociales permettrait justement à décloisonner les luttes. Et c'est ce qui me semble du coup manquer dans la ZAD. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'il n'y a aucune opposition théorique véritable entre la lutte qui a été menée sur la ZAD, les luttes ouvrières contre les délocalisations, les luttes des quartiers populaires contre la domination policière, les luttes contre les destructions des services publics. Et donc, il faut travailler dans le langage à faire converger ces luttes, à dissoudre les oppositions qui sont dans nos têtes et qui ont pour partie une base sociologique, mais auxquelles on donne trop d'importance comme principe de division indépassable. Alors, j'en appelle pas à l'illusion que tout le monde serait pareil dans ces différentes luttes. Faut être lucide. Reste qu'il faut penser pratiquement la convergence, et comme première tâche dans cette opération, il me semble important que voilà, ce type de lutte fasse l'effort de relier leur action à une critique radicale des inégalités sociales, donc en employant le langage des classes sociales, non à la va-vite, mais sérieusement, et en déconstruisant les mythes en circulation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a une circulation de catégories vides en fait, qui sont pas produites par le pouvoir, mais qui le sert le pouvoir en tout cas. Donc c'est bobo, y aurait d'un côté les bobos, de l'autre côté les ultras, d'autre côté les citoyens, il y aurait les racailles, etc. Donc ça, on utilise ce langage et c'est des catégories qui servent le pouvoir. Donc à nous de pas reculer, je pense, devant la lutte des mots, en ne reculant pas devant le langage en termes de classe. Et voilà. J'espère avoir été assez peu clair.
C'est très bien dit, Eric.
Très, oui. Très bien.
Mmh. Bon. Nous validons cette intervention.
Et c'est pour pas pour te piéger, mais est-ce que tu as un peu plus d'éléments sur l'actualité
Alors, je suis allé voir rapidement. Y a toujours des actions. Y a toujours, on va dire, aussi une veille. C'est-à-dire que une veille, si y a des mouvements de police qui arrivent, système, bon, faut informer, etc. Après, j'ai pas regardé dans le détail l'agenda, mais il y a un agenda assez fourni, effectivement, d'actions qui ont lieu. Et d'après ce que j'ai compris, effectivement, donc il y a eu des constructions, des constructions, etc. Mais il y a toujours une occupation qui se maintient et qui parvient pour l'instant à enrayer cette machine d'expulsion. Après, pour l'instant, visiblement, le ministre, et qui est le maire de Nantes et qui est le principal défenseur de ce projet d'aéroport, reste dans cette... Enfin, fait comme s'il est toujours confiant et que l'aéroport va se faire. Mmh. Voilà, donc... mais bon, ça peut être aussi de l'intox. La lutte continue.
D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas une très bonne transition avec la petite, la petite brève là, ouais, qu'on voulait faire sur l'Oelland, parce qu'il y a des ressemblances un petit peu.
Oui, tu as raison, c'est pour ça qu'on l'avait imprimé. C'était juste, alors très rapidement, dire que l'association Carton Rouge invite le 23 septembre à se retrouver pour stopper le projet Oelland. Donc Oelland, en deux mots, c'est le projet de grand stade des Lumières, cher à Jean-Michel Aulas, le président de l'OL Lyon, enfin de l'Olympique Lyonnais, donc l'équipe de foot, quoi. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce truc. L'article rappelle que le chantier que Jean-Michel Aulas n'est toujours pas propriétaire du chantier, qui doit encore faire face à de nombreux recours juridiques non purgés à ce jour. Donc, en gros, qu'il n'est pas trop tard, contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser ou ce qu'on entend. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'entendre effectivement plusieurs personnes me dire oh, ben non, mais là, c'est fini, c'est foutu. Donc, voilà, concrètement, donc le 23 septembre, manifestation proposée par l'association Carton Rouge, en lien avec le collectif des Gaunes pour Gerland, etc., etc. Et toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur Rébellion, en fait.
Donc le site d'information alternative lyonnaise, rébellion.org,
je crois.
Ou quelque chose comme ça.
Voilà.
Et du coup, on se fait une petite un petit morceau de musique. Est-ce que tu peux peut-être l'annoncer, parce que je suis pas sûr de l'entendre.
Alors c'est UK Subs. UK Subs, donc c'est un vieux groupe punk anglais très très vindicatif. Et la chanson doit s'appeler
Reclaim the Streets.
Voilà, Reclaim the Streets.
Reclaim the Streets. Très bien. Et ben c'est parti. Radio Canu 102.2 et on a le temps de faire la petite intro de la chronique auto.
Wouh ! Nous sommes tout ouïes.
Alors pour cette chronique, j'ai pas prévu grand chose, ça tombe bien parce que la causerie est déjà présente. Juste quelques mots en fait pour dire ce dont j'aimerais parler en fait cette année. Alors je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de chroniques, mais bon, on va essayer de travailler collectivement autour, hein, peut-être. Hein,
mais avec plaisir. Hein,
c'est bon. On va te laisser tout seul. Alors là, tu t'es.
Oh, t'es un peu salaud, Rick.
Ok. Bon, bah justement, je veux parler de beaucoup de concepts autour de l'organisation sociale, de la solidarité. Ça tombe bien. On sera un très bon exemple. Donc, on était parti des zombies en fait l'année dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là. C'était un grand prétexte pour m'incruster dans cette émission de radio. Les zombies, ce qui m'avait permis de parler des processus inconscients. J'avais dérivé sur les réseaux de neurones qui fonctionnent sans conscience. Je vous avais pris la tête avec le concept de topoïèse et de frontières cellulaires.
Ah, on s'en rappelle encore.
Et on avait conclu à l'organisation des systèmes, en fait, parce que ça permettait de réfléchir à comment les systèmes s'organisaient, les systèmes neuronaux, et pourquoi pas les systèmes sociaux. Et donc, une des conclusions temporaires était que les systèmes s'auto-organisaient. Donc, chouette, la cellule nous montre qu'on est auto-organisé, qu'on s'auto-gère, et bien peut-être que socialement, il faut faire pareil. Non, c'était pas la conclusion, mais l'idée était maintenant, en fait, d'enchaîner en fait, un peu plus sur ces concepts, en fait, parler de tous ces concepts qui tournent autour de l'auto, l'auto-organisation, l'auto-gestion, l'autonomie, l'auto-régulation, l'auto-référence, etc., etc. Et donc, comme c'est une émission de critique sociale, voilà, c'était nécessaire en fait de faire ce pas et de progresser un peu plus vers le social, n'est-ce pas?
Oui.
Et alors du coup, l'idée, ça va être d'essayer de revenir un petit peu sur tous ces termes, parce que finalement, ils se rejoignent pas mal, les définitions se croisent parfois, et je trouve que ça peut être intéressant en fait de revenir, je vais pas faire un cours d'histoire, mais revenir un petit peu sur l'histoire de certains mots, notamment du terme d'autogestion qui a été beaucoup employé dans les années 60, du terme d'auto-organisation dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière et sur lequel on pourra revenir parce que beaucoup de gens sont reposés en fait sur les travaux des scientifiques pour appuyer des arguments d'organisation sociale. Bien sûr, on va essayer de voir leur lien avec la politique, avec le social, avec certains mouvements de lutte, et aussi probablement on parlera beaucoup de l'anarchie, mais aussi du libéralisme. Malheureusement, et c'est ça qui va m'intéresser en fait. Alors je vais essayer de parler des philosophes, des sociologues, des historiens qui ont analysé tous ces concepts-là. Alors je prétends pas du tout faire là non plus des cours, c'est pas du tout ma spécialité, et donc je me reposerai encore sur ce chef que nous avons dans cette émission et qui sera nous guider.
Je crois qu'on parle de toi, Natacha.
Je suis pas sûre.
Tout à fait, non, c'était de toi, Natacha, dont je parlais. C'est toi la référence de cette émission. Après un sondage auprès de nos auditeurs, tu es la voix de Angle Mort. Tu es la voix d'Angle Mort. Donc, on va essayer de parler de quelques auteurs. Alors, il y en a quelques-uns, c'est quasiment sûr, dont je parlerai. C'est Pierre Rozan-Vallon, tout d'abord.
Rozan-Vallon,
qui a beaucoup parlé de cette galaxie auto. On s'arrêtera aussi peut-être sur Cornelius Castoriadis, pardon, qui était un grand penseur de l'autonomie. J'aimerais bien peut-être faire aussi un petit détour du côté de Foucault et de Deleuze, qu'on parlait beaucoup de la logique du contrôle et de la société disciplinaire, et je pense que c'est un peu la vision en miroir en fait de cet aspect d'autogestion et de non-contrôle en fait, parce que c'est un peu ça finalement, c'est d'aller rechercher l'absence de contrôle. Et donc je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher du côté de Foucault et de Deleuze du coup.
Devoir en mettre du Bourdieu pour rattraper tout ça.
Pourquoi tu vas pas dire que t'aimes pas Foucault?
C'est un très grand personnage.
Merci pour lui. D'accord. Bon, écoute, on fera la.
C'est loin d'être le pire. C'est mais après, moi, je suis pas un spécialiste, donc je peux pas me prononcer.
D'accord. Donc en fait, il faut que je change en même temps la musique pendant que je parle. C'est vrai que ça va être compliqué là.
Est-ce que tu veux que du coup j'essaye de dire des trucs?
Ouais. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de Foucault, s'il te plaît.
Foucault. Déjà, je me gourde de nom.
Non mais plus simplement, on peut dire que on arrive au terme de cette émission.
Non, c'est bon.
Ah,
en fait,
j'ai eu
le temps de le mettre. Pour terminer, en fait, moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est de m'arrêter en fait sur quelques équivoques et quelques critiques, voire même paradoxes. Parce que de mes lectures récentes, à cause de cette année chronique zombie, je me suis rendu compte en fait que la référence à l'autogestion se retrouvait souvent dans les écrits libéraux. En fait, dans le libéralisme, c'est beaucoup appuyé en fait sur cette autogestion. Je trouve que ça pourrait être intéressant aussi d'observer, de revenir sur la conversion des structures syndicales autogestionnaires à la perspective socialiste. Donc ces grosses structures syndicales qui ont abandonné ce combat. Et une dernière chose qui m'intéresse et qui pourra peut-être faire l'écho sur une chose qu'on voulait faire en fait l'année dernière, qu'on n'a pas repris, c'était de revenir en fait sur les hiérarchies. Alors on en a parlé hein, bien sûr l'année dernière, mais on était né un petit peu sur les cendres du feu collectif anti-hiérarchie, et dans ce collectif, une chose qui m'a m'avait beaucoup plu, c'était ces discussions autour de la difficulté d'avoir du consensus en fait dans les groupes. Alors, je vais pas faire un discours pessimiste, hein, mais je trouve que c'est intéressant de revenir sur cette difficulté en fait à avoir du consensus et aussi la difficulté d'effacer totalement les hiérarchies. On le voit très bien dans cette émission. Il y a des gens, voilà, qui maîtrisent davantage le langage et qui ont certaines habitudes pour parler. Et ben voilà, les hiérarchies se manifestent aussi par le langage, par la facilité de parler. Et voilà. Donc j'aimerais quand même qu'on puisse aussi voilà, de discourir autour de cette de ces aspects un petit peu difficiles à gérer, même si bien sûr on sera là pour défendre bien sûr cette autogestion. Là j'essaye de gérer en même temps les... C'est dur l'autogestion. J'essaie de gérer en même temps la musique. Et donc là, on va lancer une dernière musique. Deux derniers petits morceaux. En fait, ils ne durent pas longtemps, 30 secondes, une minute. Donc ça va faire une bonne transition avec la causerie. Ce que vous allez écouter... Désolé, du coup, je ne suis pas arrivé à choper ton CD. Ça va être Saturn's Flea Collar. C'est des gens qui faisaient partie des Victims Per Milli. Et vous allez... Ne soyez pas trop étonnés par le premier morceau qui s'appelle Variation, qui dure que 30 secondes, qui enchaînera sur un bon petit punk après, vous allez voir. Et donc c'est il faut que je retrouve.
Et on dit salut.
Et donc on vous dit au revoir. On se voit la semaine prochaine avec le Brésil encore.
Deuxième émission sur le Brésil, donc on avait déjà fait une la semaine dernière que vous pourrez réécouter sur le blog de l'émission qui est hébergé par les blogs de Radio Canu en fait. Donc qui traitait de l'histoire du Parti des Travailleurs, et donc la semaine prochaine ça sera sur les mouvements sociaux qui ont eu lieu au Brésil récemment.
Bonne soirée, merci.
Salut.
À la semaine prochaine.
You are a sexual being. Respect for all in the places we'd rather forget.